Adoraplomène, où l'avez-vous expédié?
À un endroit où il ne saurait y avoir aucun espoir de vivre heureux jusqu'à la fin des temps.
Combien de vous, vous connaissez la suite de cette histoire? Elle arrive dans le vrai monde, elle n'est plus dans un dessin animé, et elle sort, en fait, d'un trou dans la rue à New York, et bon, elle arrive à l'endroit où, selon la sorcière méchante, il n'y a aucun espoir de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Combien de vous, vous voyez dans ce petit clip vidéo, vraiment, on voit un peu... qu'est-ce qui se passe dans notre société aujourd'hui? On a un groupe de personnes qui ont encore l'espérance que peut-être un jour je vais trouver l'amour de ma vie, on va se marier, on va vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants jusqu'à la fin des temps, etc. Mais puis il y a tout un autre groupe de personnes comme la sorcière qui est convaincue, absolument convaincue que ici sur la planète Terre, il est impossible, il n'y a aucun espoir, personne ne peut vivre heureux et être marié. Hein, les deux ne vont pas de pair. Être heureux, être marié, ça se peut pas. Combien de vous avez entendu cela aussi? Mais qu'est-ce qu'on voit devant nous aujourd'hui? Nous avons un bon exemple de deux personnes qui se sont mariées, qui se sont engagées l'un à l'autre il y a déjà 25 ans. Et je connais pas toute leur histoire, mais s'ils sont comme la plupart des êtres humains, je peux vous dire aujourd'hui avec assez d'assurance qu'ils ont eu des hauts et qu'ils ont eu des bas, n'est-ce pas vrai? Ils ont eu des moments de joie, mais ils ont eu des moments de peine aussi. Ils ont eu des moments où il semblait que les rêves allaient se réaliser, et puis il y avait peut-être des moments où il semblait que c'était juste la déception, n'est-ce pas vrai? Mais aujourd'hui, on va voir dans la parole de Dieu des choses qui vont nous aider à voir que vivre heureux et être marié, ce n'est pas un conte de fées. Ça peut être une réalité. Et on va voir jusqu'à quel point c'est pas juste une possibilité, mais c'est presque une responsabilité. C'est un privilège, c'est un honneur, et l'impact d'un bon mariage chrétien est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc, pour commencer, j'aimerais juste lire un passage d'Éphésiens chapitre 5 aujourd'hui, et on va voir dans la parole de Dieu les choses qui vont nous aider. Les premiers versets ne se trouvent pas dans vos notes, mais si vous voulez, vous pouvez lire ici sur l'écran. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. On peut continuer. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Si on peut continuer. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter à cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps, ainsi celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Et c'est là où on arrive, et c'est dans vos notes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Donc, on voit ici, et le mot clé dans ce verset que je voulais vraiment souligner, c'est que, et on va voir ça tantôt, c'est que on est appelé à aimer sa femme. En tant que mari, ma responsabilité, c'est de prendre soin de ma femme comme je prends soin de moi-même. La responsabilité de ma femme, c'est d'avoir du respect et de m'honorer. Mais pourquoi? Parce que tout cela, ça nous donne la recette pour avoir un mariage qui est long et heureux. En fait, c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Combien de vous, vous voulez avoir et vous voulez voir autour de vous les mariages chrétiens qui sont longs et heureux? Hein? Pas longs et misérables. Pas heureux pour quelques jours ou quelques mois ou quelques ans et puis c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est les deux. Long, tout le monde dit long et heureux. Et c'est possible. C'est pas juste un conte de fées. C'est une réalité. Et j'aime beaucoup la traduction de la parole vivante d'Éphésiens 5, 32. Et on va le lire ici. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Et ça, c'est le mot-clé que je veux souligner. Tout le monde dit symbole. C'est-à-dire que le mariage chrétien, le mariage entre Michel et Jocelyne, mon mariage, le mariage de n'importe quel enfant de Dieu qui a pris un engagement devant Dieu et devant les témoins de se marier et de rester fidèle jusqu'à la fin de le jour, chaque mariage chrétien est symbolique. Et c'est pourquoi il est important, pas juste pour notre bonheur, pas juste parce que Dieu veut nous bénir et il veut que nous soyons heureux dans la vie. Ça fait partie de son plan. Mais Dieu veut quelque chose d'encore plus profond et plus grand. Dieu veut démontrer, il veut déclarer, il veut prononcer au monde entier que dans le mariage chrétien, nous avons un symbole de son amour pour l'Église. N'est-ce pas bon? On sait, la Bible dit que c'est pour ceci qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous savez que c'est symbolique de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Jésus-Christ, qui est le mari, l'Église, qui est l'épouse, Jésus, le mari, a quitté le Père. Il a quitté le ciel, n'est-ce pas? Il était auprès du Père, dès le commencement. Il avait la gloire, il avait le pouvoir avec Dieu le Père, mais de son propre gré, de sa propre volonté, Jésus a pris une décision de quitter le Père, et de venir sur la terre et de chercher de poursuivre sa femme et avec amour de donner sa vie pour elle afin qu'elle soit sauvée. N'est-ce pas merveilleux? De la même façon qu'un homme doit quitter ses parents et chercher sa femme et devenir une seule chair avec elle. Donc on voit, c'est symbolique. En fait, il y a quatre choses que j'aimerais souligner au niveau de ce symbole d'amour que le mariage nous donne. Premièrement, le mariage est le symbole de sa passion. Est-ce que vous voyez, à chaque fois qu'on voit un homme qui tombe en amour avec une femme et la femme qui tombe en amour avec un homme, on voit une passion, on voit les feux d'artifice, ils ne peuvent pas parler d'autre chose que ça, n'est-ce pas vrai? Vous savez pas de quoi je parle? Est-ce que vous n'êtes pas fait en bois, non? Hein? Vous savez de quoi je parle? Mais regardons, on voit cette passion. Et cette passion existe dans la race humaine. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La passion n'est pas une chose négative. C'est juste la passion qui n'est pas bien dirigée qui est négative. Mais la passion qui est pure, la passion qui est sainte, c'est une chose de Dieu. Et le mariage est le symbole de sa passion. Jésus est celui qui est le plus passionnant pour son épouse. Vous savez, il a donné sa vie. Encore, nous voyons Jésus cloué à la croix. Et encore, le symbolisme de Christ et l'Église et le mariage, c'est tellement grand. Combien de vous savez que quand Dieu a créé la femme, il a pris quelle partie du corps d'Adam? La côte, n'est-ce pas? Il n'a pas pris un os de son pied pour qu'il puisse dominer sur elle. Vous êtes d'accord? Il n'a pas pris un morceau de sa tête, mais même il y a des personnes qui pensent que peut-être c'est bien ça. Il a pris une côte. Mais n'est-ce pas intéressant? Pourquoi? Parce que c'est là, à son côté, que la femme est exposée de rester sous son bras, proche de son cœur. Mais voyez-vous que quand Jésus était cloué à la croix, ils ont percé quoi? Sa côte. Et c'est de sa côte que le sang et l'eau a coulé. On voit la passion de Jésus-Christ. L'Église a pris naissance, si vous voulez, La femme de Dieu est sortie du côte de Jésus-Christ, de la même façon que Ève est sortie de la côte d'Adam. Passionnant, n'est-ce pas? Le mariage est le symbole aussi de son sacrifice. Jésus n'a pas juste dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais il est passé à l'acte. Il a passé à l'action jusqu'à donner sa vie pour sa femme. Le mariage est aussi le symbole de sa fidélité. N'est-ce pas bon de savoir que Jésus ne nous abandonnera jamais? Qu'il est toujours fidèle à nous? Que peu importe qu'est-ce qu'on fait, il va rester fidèle à nous? Et dans le mariage chrétien, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'un homme et une femme s'engagent à rester fidèles jusqu'à la fin de leur jour pour démontrer la fidélité de Dieu, pour être symbolique de cette fidélité. Le mariage est aussi le symbole de son alliance. Vous savez que, il y a 25 ans, Michel et Justin, ils ont échangé les alliances, n'est-ce pas? Mais encore, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un engagement. C'est un serment solennel qu'un homme fait à une femme et qu'une femme fait à un homme, où on dit tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Et la personne dit en réponse tout ce que je suis, esprit, âme et corps, et tout ce que j'ai t'appartient. Ce n'est plus juste deux personnes qui vivent sous le même toit, c'est une seule chair. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'appartient. Et ça, c'est la beauté du mariage, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. La Bible dit, comment celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses pleinement avec lui? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne nous a pas donné quand il a donné Jésus? Non, il nous a tout donné, n'est-ce pas? Donc, le mariage est le symbole de sa passion, son sacrifice, sa fidélité et son alliance. Et c'est pourquoi Dieu veut qu'un homme et une femme soient capables d'amener jusqu'au bout ce symbole. Il veut. Dieu veut. Tout le monde dit Dieu veut. C'est son plan, c'est son idée. Dieu veut qu'un homme et une femme soient capables d'avoir un mariage qui est long et heureux. Tout le monde dit long et heureux. Et c'est pas juste parce qu'il veut que vous soyez bénis. Dieu veut bénir le monde autour de vous. Amen. Donc aujourd'hui, on va juste regarder deux domaines. On va regarder la clé d'un long mariage. On va regarder la clé d'un mariage qui est heureux. Et j'avais juste à cœur aujourd'hui, Michel et Jocelyne, de partager avec tout le monde ces principes. En fait, c'est les principes qui m'ont aidé énormément dans ma vie conjugale. C'est des principes qui ont fait toute la différence. Et je suis convaincu que ces principes vont faire toute la différence pour vous aujourd'hui aussi. Est-ce que ça vous intéresse de voir les choses terre à terre, pratiques, qu'est-ce que vous pourrez faire pour avoir un mariage qui est long et heureux? Bon. Donc, premièrement, la clé d'un long mariage est l'amour inconditionnel. Tout le monde dit inconditionnel. C'est quoi inconditionnel? C'est-à-dire que peu importe qu'est-ce que l'autre personne fait, j'ai décidé de l'aimer. L'amour inconditionnel, c'est l'amour divin. C'est l'amour que Dieu a pour nous, qui est indépendant de notre réponse. Savez-vous quoi? Regardez-moi droit dans les yeux. Dieu vous aime. Et il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer son amour pour vous. Vous pouvez le rejeter. Vous pouvez tourner votre dos. Vous pouvez décider de ne plus passer du temps avec lui. Mais son amour pour vous ne changera jamais. C'est inconditionnel. Et on sait que, selon Romains 5:8, cet amour a été prouvé et démontré quand Jésus est venu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, Romains 5:8, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc on voit cet amour. Ça ne dépendait pas de notre réaction ou notre réponse. Ça dépendait seulement et uniquement de Dieu. Amen. Voici la bonne nouvelle. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, je parle pas de quelqu'un qui fréquente une église, je parle pas de quelqu'un qui prie ou lit la Bible, mais je parle de quelqu'un qui est vraiment, comme Jésus dit, né de nouveau, que vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Si Jésus-Christ habite vraiment dans votre cœur, vous êtes capable, tout le monde dit, je suis capable, vous êtes capable d'aimer, même dans le contexte d'un mariage, comme Dieu vous a aimé. C'est-à-dire sans condition. Pourquoi est-ce que je dis cela? Romains 5, 5 nous montre, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Tout le monde dit, « L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. » Si son amour est dans votre cœur, vous pouvez l'activer par la foi et vous pouvez prendre une décision d'aimer. Et voilà, ça c'est pourquoi, c'est comme la fondation. Si on veut faire un gâteau, on doit premièrement faire le gâteau et ensuite on met le crémage, n'est-ce pas? Là, on parle du gâteau. On parle pas du crémage, on parle de la base de la recette. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et si vous voulez avoir un mariage qui est long, il faut poser la fondation de l'amour inconditionnel. La Bible appelle ça, en fait, le mot grec pour cela, c'est l'amour agapé. Tout le monde dit agapé. C'est inconditionnel, sans unique. Je t'aime. Si tu ne m'aimes pas en retour, je t'aime toujours. Et voici la clé. Pour avoir un mariage qui va durer, ça prend deux personnes qui ont tous les deux la même conviction. Écoutez-moi, messieurs et mesdames, et surtout si vous êtes jeunes aujourd'hui et vous rêvez d'un jour vous marier et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Le critère numéro un que vous devriez chercher dans un conjoint, dans un mari ou dans une épouse, le critère numéro un, il faut chercher et voir, est-ce que la personne avec qui je veux me marier, est-ce que la personne a compris l'amour inconditionnel? Est-ce qu'il a reçu dans son cœur? Et est-ce qu'il s'est engagé à vivre pour Jésus jusqu'à la fin de sa vie? Parce que si un homme ou une femme n'est pas prêt à vivre pour Jésus jusqu'à la fin de sa vie, vous êtes fou de penser qu'il va vivre pour vous jusqu'à la fin de sa vie. Amen? Le critère, moi je sais, et moi je suis marié maintenant depuis 23 ans. On vous a presque attrapé. Ils vont toujours être en avance, par exemple, hein? Mais je sais qu'il y a 23 ans, même il y a 24 ans, quand on s'est fiancés, et on a dit à nos amis que nous allons rester mariés jusqu'à la mort. Nous n'allons jamais nous divorcer. Comment est-ce que tu peux dire cela? Moi, je peux le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de un, mon engagement est solide. Et j'ai choisi une femme qui est vendue à Jésus. Elle est engagée à Jésus. Même avant de s'engager à moi, j'ai vu son engagement au Seigneur. Et ça, c'était la critère numéro un que vous devrez chercher. Essayez pas de vous mettre dans une alliance avec quelqu'un qui est pas stable dans son engagement envers Jésus-Christ, ça marchera pas. Amen? Vous me suivez? Ça, c'est la première chose. Donc, quelques trucs pratiques. Numéro un, trois choses. Numéro un, prenez une décision. Il revient sûrement. Tout le monde dit décision. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une décision. Pourquoi est-ce que les gens disent, oh, je vois des couples, ils sont, oh, c'est le coup de foudre, ils sont en amour, ils sont des amoureux, et quelques semaines, quelques mois, quelques ans plus tard, je l'aime plus. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Je l'aime plus. C'est-à-dire que les émotions ne sont plus là. J'ai plus des frissons quand je le vois. J'ai plutôt d'autres émotions. Hein? Il me tape sur les nerfs, ou da-da-da. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que l'amour n'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est pas un feeling, l'amour est une décision. Tout le monde dit une décision. Donc, première chose, prenez une décision d'aimer votre mari ou votre femme jusqu'à la fin de la vie. Et ça, c'est une décision que j'ai prise, par exemple, le mois de juin, le 15 juin 1985, j'ai pris une décision et je l'ai verbalisée publiquement que je vais rester fidèle à ma femme jusqu'à la fin. Numéro 2, enlevez le mot divorce de votre vocabulaire. Et ça, c'est une chose délicate parce que moi, je viens d'une famille où mes parents ont été divorcés. Et presque tous mes oncles et tantes ont été divorcés. Et je sais qu'aujourd'hui dans cette salle, il y a quand même un grand pourcentage des personnes qui ont passé par cela. Donc, je sais pas du tout, l'idée ici, c'est pas de pointer le doigt, parce que si c'est pas pour la grâce de Dieu, on passerait tous par là. Vous êtes d'accord? Mais quand même, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prendre une décision que le divorce n'est pas une option et ça devrait même pas être dans le vocabulaire. Tanya et moi, on a dit dès le début, on ne fait même pas des blagues, on ne fait pas des farces, elle ne dit jamais je vais faire les valises ou si tu ne changes pas, je vais te divorcer. C'est même pas une blague, c'est pas acceptable, même pas dans le vocabulaire. Enlevez le mot « des » de votre vocabulaire. Amen? Vous dites, mais comment est-ce que vous pouvez faire cela? Par la foi et par l'amour. Amen? Puis, numéro 3, condamner la porte en arrière une fois pour toutes. La porte en arrière, vous savez, la porte d'urgence. Oh, les choses vont... c'est difficile, c'est pas évident, c'est pas facile, donc, boum, je me sauve. C'est pas ça qui va amener à une vie heureuse et un mariage qui est long. Il faut pas juste barrer la porte en arrière, il faut la condamner, il faut mettre du gypse par-dessus et le taper bien comme il faut. Amen? Il y avait une porte d'entrée dans le mariage pour moi, il n'y a pas de porte de sortie sauf la mort. Et c'est pas elle qui va me tuer non plus, hein? Donc la clé d'un long mariage, c'est l'amour inconditionnel, l'amour agapé. Puis, mais combien de vous savez qu'on peut être engagé de rester dans un mariage jusqu'à la fin du temps et être misérable? Allô? Là, on a fait le gâteau, mais on a besoin d'un peu de crémage. Sinon, le gâteau est un peu sec, c'est pas trop succulent, ça manque de saveur. Qu'est-ce qu'on veut? On veut de la crémage et on veut de la crémage en masse. N'est-ce pas? Combien de vous aimez la crémage sur le gâteau? Moi, j'aime toujours les morceaux, hein, le bout du gâteau, hein, avec les fleurs et tout. Et puis, je fais les exercices par la suite. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut un beau gâteau qui va durer. On veut un mariage qui va être long, mais pas long et misérable. On veut long et heureux, n'est-ce pas? Mais la clé d'un mariage heureux est l'amour réciproque. Tout le monde dit réciproque. En fait, il y a un mot pour cela en grec, dans le Nouveau Testament. On a le mot agapé qui parle de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, sens unique. Mais puis, on a aussi le mot philéo. Avez-vous entendu parler de la ville de Philadelphia? Ça, c'est la ville de l'amour fraternel. Et ça parle d'un amour qui est réciproque. C'est-à-dire que dans cet amour, je peux faire des gestes qui vous font plaisir. Et vous, en retour, parce que vous aimez ça, vous faites des gestes qui font plaisir à moi. Et donc, on bâtit en rapport une relation réciproque. Et c'est là où le crémage du mariage. C'est là où le mariage est le fun. C'est là où on met du piquant. C'est là où on a de la saveur dans le mariage. Et le mariage devient pas juste long, mais ça devient heureux et agréable. Amen. Romains chapitre 12, verset 10, on voit cela. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous un frère. Et encore, ce mot aimez-vous un frère, c'est le mot philéo, Philadelphia. D'une affection vraie et profonde. Tout le monde dit affection. Savez-vous que dans un mariage, ça prend l'affection? Pas juste un engagement. C'est pas juste un homme qui dit, mais j'ai promis que je resterai fidèle à toi. J'aime pas ça. Je suis pas content, je suis malheureux, mais je te promets que je vais t'offrir. Je vais te supporter jusqu'à la mort. C'est pas ça un vrai mariage. Ça c'est plate. Qu'est-ce qu'on veut, c'est long et heureux. Mais voilà, comme les membres d'une même famille, aimez-vous un frère d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous quoi? Mutuellement, ça c'est le mot clé, mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur, soyez les premiers à témoigner des dégâts. Avez-vous lu cela? Je devrais, mutuellement dans un mariage, je devrais chercher toujours les intérêts de ma femme avant de chercher mes propres intérêts. Et si elle fait la même chose pour moi, ça c'est le ciel sur la terre, n'est-ce pas? Si je ne cherche que mes intérêts, mes désirs, mon plaisir, ça c'est la recette pour la frustration et la déception dans un mariage. Mais si mon but c'est de lui faire plaisir et son but c'est de me faire plaisir, voilà, ça c'est la crémage. Plus que sucré, ça c'est le paradis sur la terre. Amen. Donc, trois conseils pratiques, terre à terre. Trois choses que vous pouvez faire pour avoir un mariage qui est heureux. Numéro un, devenez les meilleurs amis. Savez-vous, cette femme qui est là est sans aucun doute ma meilleure amie. Il n'y a personne sur la planète qui est semblable à elle. Elle me connaît, il n'y a pas de secret que j'ai, elle sait tout sur moi et sur ma vie, j'ai absolument rien à cacher, nous avons une relation intime. C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est qu'est-ce que Dieu avait avec Adam et Ève dans le jardin avant le péché. Rien à cacher et rien à craindre. Tout le monde dit rien à cacher et rien à craindre. Voilà, c'est le péché qui a amené la honte. Et c'est quoi que c'est passé? Première chose, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu l'intimité avec Dieu et ils ont perdu l'intimité l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Ils ont eu honte, oh, ils sont couverts et ils se sont cachés. Ils avaient peur et ils avaient honte. Mais dans un mariage, on devrait être marié avec notre meilleur ami. Amen? Et si on est marié avec notre meilleur ami, ça c'est le fun. C'est pas juste long, mais ça devient heureux aussi. Amen. Numéro deux, deuxième chose. Respectez le principe de la banque d'amour émotionnel. Je vais vous parler juste... Un jour, je vais faire peut-être toute une série sur il vécu heureux, compte de fait ou réalité. Aujourd'hui, je vous donne juste quelques petits points. Mais savez-vous que c'est un principe que je vais vous parler là, la banque, tout le monde dit la banque d'amour émotionnel. C'est un principe qui a aidé beaucoup, beaucoup de couples à mettre de la crémage sur le gâteau de leur mariage. Et c'est quoi ça, ce principe de la banque d'amour émotionnel? Savez-vous que quand deux personnes se rencontrent et tombent en amour, que tout de suite, il y a comme un compte de banque qui est ouvert. Mais c'est un compte de banque émotionnel. Il y a des sentiments positifs. On voit la personne et on fond. On pense à la personne, on rêve à la personne. On a juste à entendre son nom et on a des sentiments émotionnels qui sont positifs. Vous savez de quoi je parle? Ce principe, en passant, ne marche pas juste dans le mariage, ça marche avec tout le monde avec qui vous êtes en relation. Ça marche avec vos parents, vos collègues au travail, ou n'importe qui. Il y a certains collègues que quand vous les voyez, vous êtes heureux. Il y a d'autres collègues que quand vous les voyez, vous êtes stressés. Et il y a quelques années, vous, quand vous voyez votre mari, vous êtes heureux. Il y a d'autres, vous êtes stressés, ou fâchés, ou frustrés. Et qu'est-ce qu'on veut dans un mariage? C'est de bâtir une relation où la banque d'amour émotionnel est pleine à craquer, n'est-ce pas? Quand on tombe en amour pour la première fois, c'est plein. Ça déborde. On a un solde qui est important. Mais savez-vous qu'est-ce qui peut arriver? Avec un compte de banque, il y a deux choses qu'on peut faire, n'est-ce pas? On peut faire les dépôts ou on peut faire les retraits. Quand ma femme fait quelque chose qui me fait plaisir, qu'est-ce que ça fait? En dépôt, mes sentiments pour elle grandissent. Mais quand elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, qui est arrivé une ou deux fois pendant 23 ans... Non, un peu plus. Donc, il y a un retrait qui est fait. Et donc, mon solde commence à baisser. Quand je fais quelque chose qu'elle aime, je fais un dépôt. Mais quand j'oublie de sortir la poubelle ou j'oublie quelque chose ou je manque la tendresse ou je manque la sensibilité que je devrais avoir, qu'est-ce qui arrive? Je fais un retrait et son compte de banque émotionnelle baisse. Mais, qu'est-ce qui est important? C'est pourquoi il faut bâtir sur le fondement de l'agapé. Parce que même si mon compte est à zéro, qui n'est pas le cas, loin de là, mais même si mon compte d'amour émotionnel était dans le rouge, j'aurais quand même la fondation de l'amour agapé qui dirait « Je reste fidèle jusqu'à la fin. » Amen. Mais le problème, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas cet amour inconditionnel. Quand le compte est à zéro ou dans le rouge, ils disent « Je l'aime plus » et, comme on dit en bon français, il se zappe. Ils quittent leur camp, n'est-ce pas? Et ils changent de place ou changent de partenaire. Et ça marche pas. Parce que le problème, c'est qu'ils vont commencer une autre relation et ça va se reproduire dans la prochaine. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'apprendre à faire plaisir l'un à l'autre et de faire continuellement. Et la bonne nouvelle, c'est ceci. Si aujourd'hui votre compte est à zéro ou il n'y a pas beaucoup ou peut-être dans le rouge, la bonne nouvelle, tout le monde dit la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer aujourd'hui à faire des dépôts et vous pouvez rebâtir votre compte de banque, votre banque d'amour émotionnel et vous pouvez retrouver le coup de foudre, vous pouvez retrouver les feux d'artifice, vous pouvez retomber en amour. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais pour cela, il faut savoir, voici le problème, et je ne vais pas faire toute la leçon là-dessus. Les hommes ont des besoins et les femmes ont des besoins. Et si j'essaie de faire plaisir à ma femme de la façon que j'aimerais me faire plaisir ou j'aimerais qu'elle me fasse plaisir, 9 fois sur 10, je vais manquer mon coup. Si tu aimes beaucoup, beaucoup la crème glacée au chocolat, et c'est la chose que tu aimes le plus au monde manger, c'est le crème glacée au chocolat. Qu'est-ce que vous allez avoir une tendance à faire? Offrir la crème glacée au chocolat à votre douce moitié, n'est-ce pas? Mais peut-être elle aime la vanille. Et si jour après jour après jour, tu l'offres avec un cœur sincère, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu lui offres le chocolat, le chocolat, le chocolat. Elle a dit, chérie, c'est bon, j'aime le chocolat, mais à l'occasion, j'aimerais manger la vanille aussi. Et savez-vous qu'il y a certaines choses que nous avons et que nous aimons et nous avons la tendance à toujours offrir qu'est-ce que nous voulons. Et c'est la même chose pour la femme. La femme a certains besoins qu'elle elle aime, elle trouve du plaisir dans certaines choses, donc elle a une tendance à offrir cela à son mari. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver ce qu'il aime, ce qu'elle aime et lui offrir la chose qui lui fait plaisir. Une chose que j'ai remarquée, et je vais juste être vraiment franc aussi, mais je peux pas parce qu'il y a des enfants dans la salle. Hein? Mais vous savez de quoi je parle. Mais les femmes ont besoin d'affection. Plus que le chocolat. Vous avez bien compris? Et si vous donnez, et si on dit que l'affection c'est la vanille, si vous lui donnez la vanille, laisse-moi vous dire, elle va avoir beaucoup plus le goût de vous donner du chocolat. Amen? Et j'ai bien fait ça avec les enfants dans la terre, n'est-ce pas? Donc, respectez le principe de la banque d'amour émotionnel. Et puis, troisièmement, et voici une clé qui nous a tellement aidés. Apprenez à parler le langage d'amour de votre conjoint. Comment on dit langage d'amour? Encore, c'est similaire à la banque d'amour émotionnel, mais c'est différent. Avec la banque d'amour, on parle des besoins de la femme et les besoins de l'homme et qu'on a besoin de faire plaisir à l'autre. Mais quand on parle de la langage d'amour, vous savez qu'il y a 5 moyens qu'un homme et une femme peuvent communiquer l'amour et ressentir l'amour. Et le problème, c'est que si je ne parle pas le même langage que ma femme et je connais pas ce langage, il se peut que je lui dis que je l'aime, mais c'est tout chinois pour elle. Elle ne ressent pas cet amour. Je vais juste vous donner, vite, les 5 langages d'amour. Le premier langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Pour quelques personnes, s'ils disent « je t'aime », et si tu dis à la personne « je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu es la personne la plus merveilleuse au monde », la personne va ressentir l'amour. Wow! Ça fait quelque chose dans son cœur. Mais à d'autres personnes, tu dis « je t'aime », mais ça fait pas grand-chose. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Pour d'autres, c'est les actes de service. Aide-moi avec la vaisselle, fais quelque chose, aide-moi à passer l'aspirateur ou aide-moi à réparer l'auto, fais quelque chose avec moi ou pour moi, rends-moi service. Et quand on rend service à la personne ressent l'amour. Amen. Les paroles sont cheap, fais quelque chose. Il y a aussi le temps de qualité. Bon, vous pouvez dire cela, faire cela, mais qu'est-ce que je veux vraiment, c'est de passer du temps avec toi. Et quand tu passes du temps avec moi, du temps de qualité, pas le temps quand tu es sur le divan en train de, avec la manette de la télévision, oui, mais on a passé une belle soirée ensemble, hein? Non, temps de qualité. Puis il y a aussi les cadeaux, et je parle des cadeaux, c'est pas forcément acheter une Rolls Royce pour votre conjoint à chaque année. Ça peut être des petites choses, un paquet de bonbons. Ça peut être une petite carte, une fleur, mais des petits gestes qui disent « je t'aime ». Pour quelques-uns, c'est les petits cadeaux. Et pour les autres, c'est quoi le dernier? Le toucher physique. Et je parle pas de la sexualité ici, je parle juste de toucher. Il y a certaines personnes, ils aiment les câlins. Ils aiment quand tu les vois, pas juste entre les hommes et les femmes, mais tu vois des fois des personnes, ils se donnent la main, ils vont prendre l'autre main, ils vont te toucher. Pourquoi? Parce que c'est leur façon de dire « je t'aime ». Le toucher physique. Mon problème, pour les premiers 10 ans de mon mariage, c'est que les langages d'amour de moi sont quoi? Les paroles valorisantes et le toucher physique. Je disais toujours à ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'écrivais les poèmes. Ça venait de mon cœur et c'était sincère. Le problème, c'est que c'est pas le langage qu'elle parle. Elle comprenait pas cela. Le langage qu'elle comprenait, c'est les actes de service. Elle a vécu dans une maison où les parents disaient pas souvent « je t'aime », mais ils étaient toujours présents en train de faire des choses pour les enfants. Donc pour elle, ça c'est l'amour, on fait des choses. Et un jour, j'arrive à la maison, on était jeunes mariés, elle a travaillé des heures pour préparer un bon repas et elle a fait mon gâteau préféré. Pourquoi? Parce qu'elle avait des sentiments d'amour pour moi, elle voulait me montrer cela. Donc, j'arrive à la maison, on mange, je mange le gâteau, et je dis, oh, c'était bon, mais je n'ai pas dit, oh, merci chérie, c'est bon, c'est merveilleux. Et tu sais quoi? Elle était déçue. Peux-tu imaginer? Parce qu'elle essayait de me dire, je t'aime, je t'aime. Mais quand j'ai écrit les lettres ou les poèmes, c'est comme, ok, c'est correct, elle a apprécié, mais pas plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? C'était apprendre. Moi, j'ai appris que pour lui faire plaisir, et pour vraiment parler le langage de son cœur, c'est le temps de qualité et les actes de service. Un jour, notre garde-robe, la tablette dans la garde-robe est tombée, et la même journée, je l'ai réparée. Voilà! Et tu sais quoi? Elle m'a dit, tu sais quoi? Ça a vraiment touché mon cœur. C'est vrai! Et tu sais quoi? Maintenant, elle a appris à écrire des petites notes et dire des mots que j'aime entendre aussi. Donc, elle a appris à parler le langage de mon cœur, j'ai appris à parler le langage de son cœur, et comme ça, on met de la crémage. Amen? Et c'est un bon gâteau. Et c'est loin d'être terminé. Amen? Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Conte de fées ou réalité? Michel, Jocelyne, j'aimerais vous inviter à venir. Et aujourd'hui, je veux vous féliciter premièrement parce que vous avez pris une décision il y a 25 ans de vous engager l'un à l'autre. Mais premièrement, votre engagement envers le Seigneur est clair. Et c'est vraiment ça qui vous donne la force dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le fait que nous allons renouveler les vœux, c'est pas parce que les vœux que vous avez faits il y a 25 ans ne sont plus bonnes. C'est parce que vous voulez tout simplement le dire encore. C'est comme le monsieur qui a dit à sa femme quand ils se sont mariés, chérie, je t'aime. Et si, mais 25 ans plus tard, il l'a jamais redit. Et sa femme disant, mais pourquoi est-ce que tu me dis jamais tu m'aimes? Mais je l'ai dit il y a 25 ans, si jamais je change d'idée, je vais le dire. C'est pas la bonne façon de mettre la crémage. Non, en fait, là, c'est une bonne façon de gratter le crémage et l'enlever ben comme pour. Mais aujourd'hui, on a devant nous Michel et Jocelyne, qui ont premièrement pris une décision de s'engager au Seigneur Jésus. Ils ont répondu à l'amour inconditionnel de Dieu. En fait, la Bible dit que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, votre amour pour le Seigneur Jésus est reflété dans votre amour l'un pour l'autre. Et l'engagement que vous avez fait à Jésus est symbolisé aussi dans votre union et dans votre mariage. Donc, j'aimerais, si vous voulez juste, peut-être, si vous voulez venir ici, tournez-vous l'un vers l'autre. Ça, comme ça, tout le monde peut vous voir. Et si vous voulez tout simplement répéter après moi ces vœux de votre cœur. OK? Michel, je vais commencer avec toi. Ma chère Jocelyne, il y a 25 ans, je t'ai pris pour être mon épouse. Aujourd'hui, devant Dieu, et devant ses témoins, je veux exprimer de nouveau, les vœux de mon cœur. Je t'ai aimé, il y a 25 ans. Je t'aime encore aujourd'hui, et je t'aimerai à jamais.
Je te promets
que je resterai toujours fidèle à toi. Je t'abandonnerai jamais. J'ai hâte de passer le restant de notre vie ensemble. Ensemble, nous ferons face aux obstacles. Ensemble, nous partagerons les joies et les peines. Ensemble, nous grandirons dans le Seigneur. Ensemble, nous ferons la volonté de Dieu pour notre vie. L'alliance que nous avons faite ensemble. Et pour toujours. Tout ce que je suis. Et tout ce que j'ai.
T'appartient.
Et je t'aime de tout mon cœur. Je promets de te chérir. Soigner.
De t'aimer
jusqu'à la fin de nos jours. Jocelyne, si tu veux juste répéter après moi. Mon cher Michel. Il y a 25 ans. Je t'ai pris pour être mon mari. Grâce au Seigneur Jésus. Notre mariage est plus fort que jamais. Aujourd'hui, devant Dieu et devant ses témoins. Je veux exprimer de nouveau. Les vœux de mon cœur. J'ai été aimé il y a 25 ans. Je t'aime encore aujourd'hui. Et je t'aimerai à jamais. Je te promets de rester fidèle. Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai hâte de passer le restant de notre vie ensemble. Nous ferons face aux obstacles ensemble. Nous partagerons les joies et les peines ensemble. Nous grandirons dans le Seigneur ensemble. Et nous ferons la volonté de Dieu ensemble. L'alliance que nous avons faite ensemble. Et pour toujours. Tout ce que je suis. Et tout ce que j'ai. T'appartient.
Et je t'aime.
De tout mon cœur. Je promets de te respecter. Et t'honorer. Et de t'aimer. Jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Donc allez-y, embrassez votre épouse. Donc, il y a Michel avait quelque chose qu'il voulait te présenter, Jocelyne, une petite surprise ce matin. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur encore une fois pour eux?
Ça fait 25 ans. Pour l'instant, je te présente 24 roses. Ça fait 24 roses pour 24 années. Puis la 25e, elle arrive.
c'est bien emballé.
La 25e, c'est un autre rose. Mais elle n'est pas comme les autres. Et la seule qui est de ce couleur-là, elle est unique parce qu'elle est comme toi.
Bon. Je pense qu'il va falloir confier ces belles roses à Stéphanie ou Simon, ça marcherait. Parce que pour clôturer aujourd'hui, Michel et Jocelyne ont désiré partager la Sainte Cène ensemble. Pourquoi? Parce que la Sainte Cène représente l'alliance de sang que Jésus a fait avec nous. En fait, comme on a déjà dit, Jésus est parti du ciel, il est venu sur la terre chercher son épouse, il a versé son sang pour entrer en alliance avec nous. C'est une alliance éternelle, c'est une promesse solennelle qui ne peut pas être brisée. Et vraiment, l'alliance qu'ils ont fait entre eux est basée sur l'alliance de sang que Jésus a fait avec nous. La raison qu'on peut avoir de l'espérance, malgré qu'est-ce que la méchante sorcière a dit, qu'il n'y a aucun espoir de trouver du bonheur ou de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Si on base notre vie sur Jésus-Christ et sur son sang, on peut le faire. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste lire un passage de la parole de Dieu. Et si vous voulez, dans un instant, vous servir l'un et l'autre. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Si tu veux prendre un petit morceau du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, vous pouvez manger. Merci, Seigneur. Ce pain représente le corps de Jésus-Christ et la coupe que nous avons entre la main ici, ça représente le sang de Jésus. Le sang précieux d'une alliance éternelle. Un sang qui est si puissant, qui lave de tous les péchés, qui fait en sorte qu'on peut se tenir devant Dieu sans avoir honte, sans avoir peur. On peut retrouver l'intimité avec Dieu grâce à ce sang. Et cette coupe représente et symbolise le sang de Jésus qui a été versé pour tout le monde et que vous avez reçu dans votre vie. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ceux qui viennent. » Si tu veux servir, Justine. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour Michel et Jocelyne. Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion heureuse et merveilleuse de célébrer pas seulement l'amour de Michel et Jocelyne, mais de célébrer avant tout l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Seigneur, merci que nous avons dans ce couple un exemple de deux personnes qui ont pris une décision de s'aimer jusqu'à la fin. Et Seigneur, nous te remercions qu'ils vont continuer à prendre une décision, pas juste d'avoir un mariage qui est long, mais aussi heureux. Ils vont pas seulement développer l'amour inconditionnel, mais aussi l'amour réciproque. Et Seigneur, nous te remercions pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants qui vont venir dans le futur. Nous te remercions, Seigneur, pour l'héritage spirituel que Michel et Jocelyne vont laisser en arrière d'eux. Et Seigneur, je prie pour chaque homme, chaque femme ici présent, peu importe l'état où ils se trouvent aujourd'hui, peu importe leur expérience, s'ils sont mariés, pas mariés. Seigneur, merci que nous sommes tous invités à faire partie de ta famille. Nous sommes tous invités à entrer en alliance avec toi et de faire partie, Seigneur, de ton corps et de devenir l'épouse de Jésus-Christ. Donc merci Père, nous prions pour Michel, nous prions pour Jocelyne. Et nous les bénissons au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous présenter encore une fois Monsieur et Madame Michel et Jocelyne Bergeron. Et si on peut avoir quelqu'un sur le piano, on va terminer ce matin, comme on termine à chaque dimanche matin, avec une invitation à tous ceux et celles qui sont ici présents de prendre une décision d'entrer en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on a parlé de l'amour de Dieu, son amour inconditionnel. On a parlé de l'amitié. On a parlé du sacrifice, de la passion, la fidélité et l'alliance que Dieu a fait avec nous. Mais il y a un verset de la parole de Dieu qui vient dans mon cœur. Et c'est en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Et voici qu'est-ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. » Je vais le lire encore et écouter ces paroles. Je vous ai promis un mariage à un seul époux, le Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'époux, n'est-ce pas? Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Bonne nouvelle aujourd'hui. Si vous dites, mais moi, je me sens plus pur, j'ai péché, j'ai fait des choses qui sont pas correctes dans ma vie, bienvenue au club. La Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas une personne sur la planète Terre qui est aussi bon pour aller au ciel sur ses propres mérites. La Bible est claire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de donner votre vie à Jésus. Encore, je ne parle pas juste de venir à l'église et de s'asseoir. Je parle d'être en relation intime avec votre Créateur. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous aime, c'est lui qui a envoyé son Fils, et son Fils est mort et ressuscité. Donc, si tout le monde peut juste, avec toute la concentration de votre cœur et votre âme aujourd'hui, écouter les prochaines paroles que je vais dire. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9, et dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur, c'est quoi? Un Seigneur, c'est un maître, un patron, celui qui est le boss. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. La bonne nouvelle, c'est que même si nous sommes nés dans le péché, que quand on vient à Jésus, son sang peut nous laver, nous purifier, et on peut redevenir comme les vierges spirituelles, prêtes à être présentées à Jésus-Christ comme son épouse. Posez-vous la question aujourd'hui. En quittant la bâtisse aujourd'hui, si votre cœur arrête de battre et vous tombez, vous êtes mort. Votre esprit quitte votre corps. Est-ce que vous avez la certitude, l'assurance que vous irez directement au ciel pour l'éternité? Vous dites, mais je vais à l'église. Comme je dis, allez chez Tim Hortons, passez la nuit, vous n'allez pas devenir une benne. Venez à l'église, passez toute votre vie dans une église, vous n'allez pas devenir un chrétien forcément non plus. Il faut prendre une décision de son cœur d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Encore, votre cœur arrête de battre, vous tombez mort, avez-vous la certitude que vous irez au ciel? Mais je prie, il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne sont pas forcément en relation avec Dieu. Mais je lis la Bible. Lire la Bible ne fait pas encore de vous un chrétien. La seule chose qui peut faire de vous un enfant de Dieu, et qui peut faire en sorte que vous soyez capable de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, c'est de donner votre cœur à lui. À la foi. Jésus a dit ceci, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Aujourd'hui, Michel et Jocelyne ont confessé qu'ils aiment Jésus et qu'ils s'aiment. Ils n'ont pas honte de cela, ils n'ont pas fait cela en cachette. Et aujourd'hui, Jésus dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais Jésus a dit aussi, si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc aujourd'hui, c'est la plus belle occasion. Vous pouvez faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Vous pouvez faire partie de ceux qui vont être présentés à Jésus comme une vierge pure pour la noce de l'agneau de Dieu. Donc, je veux juste savoir, je vais compter à trois, je vais taper ma main. Si vous êtes là, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, mais aujourd'hui, vous voulez le faire. Pensez pas à ce que les autres vont dire, et pensez seulement à ce que Jésus va dire. Qui est ici aujourd'hui qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Je veux prier avec vous. Si vous êtes là, vous voulez faire partie de lui et donner votre cœur à lui, levez votre main. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus? Tout le monde ici l'a déjà fait. Sinon, n'ayez pas honte. C'est la décision la plus importante que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste lever la main. Peut-être tout le monde l'a déjà fait, je ne sais pas. C'est seulement vous et Dieu que vous savez. Mais Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, pour chaque homme et chaque femme. Et je te remercie, Seigneur, que si par chance, il y a une personne qui ne l'a pas encore faite, qui n'a pas encore pris la décision de se mettre en relation avec toi, qu'avant que la journée se termine aujourd'hui, qu'ils vont le faire. Au nom de Jésus. Et tout le monde est d'accord, dit Amen.